l'écoute de RFI, il est 14h à Washington, 18h en temps universel, 19h ici à Paris.
RFI Soir, Romain Ozoui.
C'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et tous.
Et à la une ce soir, Donald Trump qui double les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium canadiens.
Les taxes douanières qui entrent en vigueur demain, mercredi, ne sont donc plus de 25 mais de 50%. Le président américain très agressif envers son voisin, on en parle dans un instant avec notre correspondant à Washington. L'Ukraine a repris les négociations avec les États-Unis pour trouver un possible cessez-le-feu avec la Russie. En parallèle, l'Europe se prépare. Une réunion des principaux chefs d'état-major du continent a eu lieu aujourd'hui à Paris.
Et à ce propos, nous suivrons l'œil de nos collègues du quotidien suisse Le Temps, à propos d'un débat qu'ils jugent très français, celui de comment financer des dépenses, en l'occurrence celles prévues pour augmenter le budget de la défense. Eh bien, réponse à suivre après ce grand journal du soir.
Un homme arrêté au Royaume-Uni après la collision de deux bateaux hier matin en mer du Nord et puis une petite victoire pour les victimes du chlordécone, ce pesticide utilisé pendant longtemps dans les bananeraies des Antilles, les autorités françaises vont devoir indemniser certaines d'entre elles.
Elle s'annonçait rude, la guerre commerciale lancée par les États-Unis, elle s'annonce eh bien encore plus intense finalement que prévu.
En particulier pour le Canada, des droits de douane doivent en effet entrer en vigueur demain, mercredi, pour les importations d'acier et d'aluminium de tous les pays. Et pour les métaux vendus par le voisin canadien, cette surtaxe, elle sera finalement de 50%, le double de ce qui était prévu à l'origine. Nous sommes en ligne avec Guillaume Nodin à Washington, bonjour.
Bonjour Diane, bonjour à toutes et à tous.
Guillaume, le président américain l'a annoncé aujourd'hui dans une publication menaçante sur Truth, son réseau social personnel.
Oui, Donald Trump explique que le doublement des droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien est une mesure de rétorsion à une annonce du premier ministre de la province canadienne de l'Ontario. Doug Ford a décrété une augmentation de 25% de l'électricité exportée de sa province vers les États-Unis. Donald Trump annonce qu'il va prendre des mesures pour atténuer ce qu'il considère comme une menace abusive. Il exige aussi que les droits de douane imposés par le Canada baissent immédiatement. Il considère, faussement d'ailleurs, qu'ils figurent parmi les plus élevés au monde. Et il menace de surtaxer les produits de l'industrie automobile canadienne, ce qui, estime-t-il, aurait pour conséquence de la faire purement et simplement fermer. Ces annonces ont de nouveau fait plonger la bourse de Wall Street, très nerveuse depuis plusieurs jours, à cause de ces tensions commerciales et des risques de récession et d'inflation pointés par les investisseurs et les économistes. Le reste de la publication reprend le discours désormais habituel sur la perspective de faire du Canada le 51e État américain. Donald Trump pointe les avantages qu'il y aurait pour le Canada à rejoindre son pays selon lui. Suppression de tous les droits de douane, évidemment. Baisse des impôts, suppression des problèmes à la frontière, considérée comme une ligne artificielle tracée il y a bien longtemps. Il termine en adoucissant un peu son propos, en disant que le Canada pourrait toutefois éventuellement garder son hymne.
Guillaume Nodin, et puis notons que ces arguments n'ont pas l'air de convaincre le futur Premier ministre du Canada, Marc Carney. Il promet en réaction une riposte avec, je le cite, un impact maximal sur les États-Unis. L'ombre de Donald Trump qui plane aussi sur le Groenland où séjourne de législative sur cette île de l'Arctique, autonome mais rattachée au Danemark. Les habitants ont jusqu'à 20h ce soir, heure locale pour voter, 22h en temps universel. Le résultat des élections sera scruté de près alors que le président américain convoite le territoire.
Alors, on évoquait les États-Unis, Diane Berger, les négociations sont toujours en cours à Jeddah, en Arabie Saoudite, entre représentants américains et une délégation ukrainienne. Il s'agit d'un éventuel cessez-le-feu avec la Russie.
Des discussions constructives, selon un porte-parole de la Maison-Blanche ce soir, même écho du côté de Kiev. Loin donc de l'ambiance chaotique de la rencontre à la Maison-Blanche d'il y a une dizaine de jours, quand Donald Trump avait couvert de reproches le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Question de l'Ukraine qui était au cœur d'un forum de défense stratégique aujourd'hui à Paris. Cela s'est tenu à l'école militaire.
Un événement qui a pour ambition de réfléchir aux dangers qui planent sur l'Europe dans un contexte de désengagement américain. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Diane.
Vous étiez justement à l'école militaire. En parallèle de ce forum, s'est tenue cet après-midi une réunion des chefs d'état-major des armées de 5 grands pays européens. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas et la France, avec l'ambition de soutenir l'Ukraine et de protéger l'Europe face à l'agressivité russe.
Et dans le grand amphithéâtre Foch de l'école militaire, le ton des intervenants, Diane, était volontairement dramatique. pour alerter sur les risques d'une victoire russe. Un sursaut stratégique, industriel et même culturel est nécessaire, car de son côté, a plaidé le géopolitologue Nicolas Tenzer, Moscou est déterminé à pousser ses pions.
Aujourd'hui, il est clair que Poutine veut complètement détruire l'Europe. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'on va avoir demain des chars russes en train de défiler sur les Champs-Élysées. Je crois qu'il veut surtout parvenir en aidant un certain nombre de partis anti-européens, anti-OTAN, à fragmenter complètement l'Europe de l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on est les prochains sur la liste. Alors certains peuvent être directement attaqués. La France, pas directement certainement, mais l'Estonie, peut-être la Finlande, peut-être un jour la République tchèque, d'autres pays. C'est soit la défaite, soit la victoire. On est malheureusement dans une situation de tout ou rien.
En préambule, le ministre de la Défense néerlandais, Rubens Brekelsmans, a invoqué l'urgence. Les renseignements des Pays-Bas estiment qu'il suffirait d'une année seulement à Vladimir Poutine pour redéployer ses troupes du front ukrainien vers le flanc est européen et préparer une nouvelle invasion. Nous ne sommes pas encore en guerre, mais nous ne sommes plus tout à fait en paix, a ajouté Sébastien Lecornu, ministre français des armées. Surtout l'Europe pourrait être seule. Il faut donc accélérer, martèle le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre française, car nous n'aurons qu'une seule chance.
Oui, l'expression « one shot » a été employée par le ministre de la Défense néerlandais. En tout cas, le fond du sujet, c'est qu'il faut accélérer, c'est clair. Accélérer du point de vue de l'état-major de l'armée de terre française, par exemple, c'est qu'on a un plan aujourd'hui de modernisation et de montée en gamme qui ne date pas d'hier, qui est celui de la loi de programmation militaire. Tout ce qui se passe aujourd'hui confirme la pertinence de ce plan. Maintenant, compte tenu de la montée des menaces et de la vitesse à laquelle le monde change, c'est clair que ce plan, il faut qu'on le consolide, qu'on l'accélère, qu'on aille plus vite.
Aller plus vite, Franck, c'était le menu de la réunion des chefs d'état-major européens qui s'est déroulée à l'école militaire cet après-midi.
Embarquer le plus de monde possible pour soutenir l'armée ukrainienne, définir les garanties de sécurité que l'Europe pourrait apporter à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu, mais aussi actualiser les plans de l'OTAN si jamais l'allié américain venait à se désengager du vieux continent.
À cette réunion, il était aussi question du nerf de la guerre, il faut le dire, c'est l'argent.
Comment financer une défense européenne sans le parapluie militaire américain? Dans le cas de la France, la loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit de consacrer 413 milliards d'euros à la défense, un chiffre qu'il va falloir revoir à la hausse pour compléter les stocks de missiles et de munitions pour l'artillerie, renforcer le renseignement spatial et la guerre électronique, financer l'intelligence artificielle et le quantique pour rester dans la course. Les armées ne pourront pas faire l'impasse sur ces investissements et ils s'élèvent à plusieurs dizaines de milliards d'euros supplémentaires. Le débat est ouvert.
Merci beaucoup Franck Alexandre. Et puis ajoutons que demain, ce sont les ministres des armées et de la défense de l'Europe qui seront à Paris. On parlait du financement de l'aide à l'Ukraine et de la défense européenne. Pour soutenir l'Ukraine, une proposition de résolution est débattue demain à l'Assemblée nationale française. Il est question notamment de saisir les avoirs russes gelés depuis le début de l'invasion russe. Jusqu'ici, Paris s'y opposait, mais le Premier ministre François Bayrou a ouvert tout à l'heure la porte à leur utilisation.
Nous avons une obligation, c'est d'apporter de l'aide aujourd'hui à l'Ukraine. Cette aide-là, elle est en quatre chapitres, il y a un chapitre matériel. Grâce aux équipements de la loi de programmation militaire, nous avons pu dégager des moyens matériels à offrir à l'Ukraine. Un deuxième chapitre de cette aide qui est la question des avoirs gelés. Et les avoirs gelés, nous en utiliserons les produits. Utiliser les avoirs eux-mêmes, ça ne peut se penser que dans le cadre de l'Union européenne. Troisièmement, il y a une aide en matière de formation. Et quatrièmement, il y a une aide en matière de renseignement. La partie américaine ne soutient plus aujourd'hui les efforts de renseignement qu'on était en droit d'attendre d'elle et que l'Ukraine attendait.
Le Premier ministre français François Bayrou.
Au Proche-Orient, à présent, malgré les accords de trêve au Liban et à Gaza, eh bien, l'armée israélienne annonce plusieurs frappes aujourd'hui.
Plusieurs d'entre elles ont touché le sud du Liban pour tuer, selon l'armée israélienne, des combattants du Hezbollah. Et puis à Gaza, la défense civile palestinienne signale la mort de 4 hommes dans une attaque aérienne à Gazaville. L'armée israélienne a aussi confirmé avoir ciblé un autre homme dans le sud de l'enclave. Les troupes pakistanaises ont pu libérer 80 otages à bord du train pris d'assaut à la mi-journée par des séparatistes baloutches dans le sud-ouest du Pakistan. Selon un responsable ferroviaire, un policier, un soldat et le conducteur du train ont été tués. L'attaque a été revendiquée par l'armée de libération du Baloutchistan, un groupe séparatiste qui demande l'indépendance de la région.
Allez, direction à présent le Royaume-Uni, c'est le temps de l'enquête. Après la collision de deux navires près des côtes britanniques, la police britannique a arrêté un homme.
Oui, on le rappelle, un cargo portugais et un pétrolier américain se sont percutés en mer du Nord hier matin. 36 personnes secourues, un membre d'équipage introuvable présumé décédé. Bonsoir Emeline Vin.
Bonsoir à tous.
Emeline Vin, vous êtes à Grimsby, le port le plus proche où les rescapés ont été ramenés et les enquêteurs s'orientent vers la négligence comme cause du désastre.
Oui, le suspect de 59 ans a été arrêté, placé en garde à vue pour homicide involontaire ce mardi après-midi. Cette arrestation semble donc exclure tout acte intentionnel de malveillance et confirmer la thèse privilégiée jusqu'ici que le cargo portugais, le Solong, était en pilote automatique sans aucune surveillance humaine et qu'il n'a pas pu éviter à temps le pétrolier Stena Immaculate. Alors cette collision, vous l'avez dit, elle a fait un mort présumé, un membre de l'équipage du Solong qui n'a pas été retrouvé et les secours ont arrêté leurs recherches. Et puis, il y a les dégâts environnementaux. Hein. Au moins un baril de kérosène est en train de se répandre dans la mer du Nord et les autorités sont encore en train d'établir l'étendue du désastre. À Grimsby, le port le plus proche de l'accident, c'est vraiment la pollution qui inquiète le plus les habitants, même si la marée noire semble pour leur éviter. Les deux bateaux ont dérivé l'un de l'autre, mais se trouvent toujours au large de Grimsby. Le Solong serait d'ailleurs toujours en feu. L'incendie à bord du pétrolier, lui, a été éteint. Et leur présence continue de perturber ce soir les opérations dans les ports de la côte est de l'Angleterre.
Emeline Vin en direct de Grimsby pour RFI. L'avion qui emmène Rodrigo Duterte à La Haye a décollé. L'ancien président des Philippines arrêté ce mardi, soupçonné par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité. Quand il était au pouvoir, il avait mené une guerre meurtrière contre les drogues. Une guerre qui a fait, selon les organisations de défense des droits de l'homme, des dizaines de milliers de victimes.
Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale, du grand journal du soir avec Diane Berger. 19h12 ici à Paris, 15h12 à Buenos Aires. Le procès sur la mort de Diego Maradona a commencé aujourd'hui.
La légende argentine du football retrouvée sans vie le 25 novembre 2020, mort à l'âge de 60 ans d'un arrêt cardio-respiratoire, seul sur son lit de convalescence. Aujourd'hui, 7 membres de l'équipe médicale chargée de veiller sur lui sont sur le banc des accusés, Théo Conscience.
Les 7 accusés encourent entre 8 et 25 ans de prison pour homicide simple avec dol éventuel. Autrement dit, le parquet estime que les membres de l'équipe soignante de Diego Maradona savaient que ce qu'ils étaient en train de faire pouvait entraîner la mort de leur patient et qu'ils n'ont rien fait pour l'empêcher. Le parquet s'appuie notamment sur un rapport d'expertise de 2021 qui avait estimé que Maradona avait été abandonné à son sort par l'équipe médicale qui suivait sa convalescence après une neurochirurgie. Des messages audio filtrés à la presse semblent aussi indiquer que les médecins auraient cherché à isoler l'idole argentine de sa famille. Les accusés, eux, se renvoient la responsabilité les uns les autres, affirment que Diego Maradona refusait de prendre ses médicaments et rappellent qu'il souffrait de cirrhose, d'insuffisance rénale et cardiaque et de multiples addictions après une vie d'excès. Alors Maradona était-il seulement soignable ? Qui prenait les décisions ? Pourquoi était-il en convalescence dans un lieu manifestement inadapté sans défibrillateur ? Plus de 120 témoins vont se relayer à la barre jusqu'au mois de juillet pour tenter de répondre à ces questions. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et puis nous venons de l'apprendre, selon Washington, les États-Unis et l'Ukraine vont nommer des négociateurs en vue d'un accord de paix. Par ailleurs, les États-Unis annoncent qu'ils vont reprendre leur aide militaire à l'Ukraine et le partage des renseignements avec Kiev. Nous y reviendrons bien sûr dès que possible dans nos prochaines éditions.
Voilà, information du département d'État américain. Enfin, c'était il y a exactement 5 ans, l'OMS, le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé, qui qualifiait de pandémie la propagation du Covid-19.
Et oui, c'était donc effectivement il y a exactement 5 ans. Comme de nombreux pays, la France a fait face au printemps 2020 à la première vague de cette maladie qui a fait plus de 7 millions de morts à travers le monde. Les hôpitaux ont été très vite saturés par le nombre de patients dans un état grave. Valérie Cohen a rencontré pour RFI le professeur Stéphane Gaudry. À son micro, il se souvient de ce qui s'est passé dans l'hôpital où il travaille en Seine-Saint-Denis près de Paris.
C'est plus qu'une vague, un raz-de-marée qui a touché alors l'hôpital à Vicennes et notamment le service de réanimation où exerce le professeur Stéphane Gaudry.
C'est un afflux très très important de patients, comme dans une situation de guerre, mais un afflux qui ne dure pas que quelques heures, comme par exemple lorsqu'il y a un accident ou un attentat, et qui fait que monter en fait dans les premiers jours, avec surtout un gros niveau d'incertitude sur la capacité du système à résister, puisqu'on ne pouvait pas prévoir l'afflux exact qu'il allait avoir.
Les soignants ont fait face, l'hôpital et le système de santé se sont adaptés.
Il y a eu une ouverture de nouveau de lits de réanimation en urgence, avec des services qui ont été fermés pour les patients de ces services-là et ouverts pour faire de l'activité de réanimation. Et puis, on a transféré des patients dans l'ensemble de l'Île-de-France au départ, et puis en France entière, via des trains. C'est l'engagement total de tout le personnel de santé sur tout le territoire français qui a permis de tenir et d'avoir finalement une prise en charge relativement correcte pour l'ensemble des patients qui ont eu une pneumonie à SARS-CoV-2 grave.
Un engagement des soignants salué alors tous les jours à 20h par une vague d'applaudissements d'habitants confinés.
Un témoignage recueilli par Valérie Cohen. Enfin, c'est une avancée pour les victimes du chlordécone, cet insecticide très utilisé pendant des années aux Antilles, notamment dans les bananeraies. La Cour administrative d'appel de Paris, saisie par près de 1300 personnes, juge que l'État doit indemniser les victimes qui démontrent un préjudice moral d'anxiété. Une petite victoire donc pour les victimes. Il est maintenant 18h16 en temps universel, 19h16 à Paris. Je vous laisse avec Romain Ouzoui.
Eh bien, merci. Diane Berger, c'était le grand journal du soir sur RFI. Bonsoir Sofiane Amazian.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
On va vous retrouver dans quelques minutes, parce que l'actualité sportive est importante ce soir. On va aller aussi du côté de Liverpool, il y a un match de foot capital ce soir. À suivre également dans les prochaines minutes, l'œil de nos collègues du quotidien suisse Le Temps à propos d'un débat qu'ils jugent très français. Comment financer les dépenses, en l'occurrence celles prévues pour augmenter le budget de la défense? Eh bien, réponse dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord donc le journal des sports et le foot évidemment pour débuter, puisqu'on va se connaître ce soir, Sofiane, les quatre premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En ce moment, le FC Barcelone reçoit les Portugais de Benfica.
Oui, les Blaugrana, on le rappelle, au match aller réduit à 10 après l'expulsion en début de rencontre de Pau Cubarsí, ont tout de même réussi à s'imposer 1-0 grâce à une réalisation de Rafinha. Entre-temps, le club catalan a vécu un drame, le décès du médecin du club, Carles Mineiro Garcia, à seulement 53 ans. Le match de championnat prévu ce week-end contre Osasuna a d'ailleurs été reporté, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour le FC Barcelone. 29 minutes de jeu et le Barça qui mène 2-1 face au Benfica, le Barça qui entrevoit les quarts de finale.
Alors, est-ce que ce sera pareil pour le Paris Saint-Germain? Ça, c'est le choc de la soirée, Sofiane, à vivre en intégralité sur RFI, le PSG, qui va tenter de chercher sa qualification sur la pelouse de Liverpool.
Là, une revanche, Romain, vous y étiez d'ailleurs au Parc des Princes, une revanche pour les Parisiens après leur défaite in extremis au match aller 1-0. Arne Slot, l'entraîneur des Reds, a reconnu ces derniers jours la supériorité écrasante des Parisiens mercredi dernier au Parc des Princes. Eh bien, le coach néerlandais n'est pas surpris par la qualité du PSG, mais il prévient, Liverpool montrera un meilleur visage ce mardi à Anfield.
Je n'ai pas été surpris du tout par leur performance. Ils m'avaient déjà beaucoup impressionné avant ce match. J'ai regardé beaucoup de leurs prestations et j'ai été vraiment impressionné par l'intensité de leur jeu, la cohésion de leur équipe et leur capacité à faire des rotations au milieu de terrain. C'est une équipe tellement complète, tellement bien gérée et je pense qu'on en a fait des frais mercredi dernier. Certains ont pu dire qu'on avait mal joué, mais je ne suis pas d'accord. Je pense qu'ils ont plutôt fait un match extraordinaire. Cette saison, c'est la première fois qu'on affronte une équipe qui combine autant de qualité et d'intensité, mais je pense que de notre côté, on peut faire mieux. Je ne dis pas qu'on a mal joué ou qu'on n'a pas bien joué du tout, mais nous sommes une bien meilleure équipe que la semaine dernière et c'est quelque chose qu'on a besoin de montrer avec l'aide de nos supporters.
Et Liverpool PSG, début de la rencontre à 20h, temps universel. À suivre, on le disait en direct et en intégralité sur l'antenne de RFI, coup d'envoi 19h40, temps universel. Patrick Juillard, Victor Messistrano en studio, Cédric De Oliveira du côté d'Anfield. Dans le même temps, l'Inter Milan défiera le Feyenoord Rotterdam. Les Italiens partent avec 2 buts d'avance. Enfin, duel 100% allemand entre le Bayern Leverkusen et le Bayern Munich. Le Bayern Leverkusen qui va donc se déplacer sur la pelouse du Bayern. À l'aller, les champions d'Allemagne de la saison dernière ont encaissé 3 buts à domicile, mais tout peut encore arriver pour Xabi Alonso, qui croit encore à la victoire de son équipe.
Die Mannschaft glaubt, dass wir haben etwas. Nous y croyons parce que nous avons fait quelque chose de plus difficile. La saison dernière, nous avons remporté la Bundesliga sans perdre un seul match. Pour moi, c'est plus difficile. Les joueurs le savent aussi. C'est important, car si les choses vont dans notre sens, cela pourrait avoir une influence positive.
Et Bayern Leverkusen contre le Bayern Munich, coup d'envoi du match 20h temps universel.
Et également en foot, alors c'est une page qui se tourne, hein, le club anglais de Manchester United qui va quitter son enceinte historique d'Old Trafford.
Oui, Manchester United qui a dévoilé ce mardi des plans pour bâtir un nouveau stade de 100 000 places dans le quartier d'Old Trafford, leur enceinte historique depuis 115 ans, devenue vieillissante. Aujourd'hui marque le début d'une aventure incroyablement excitante vers la livraison de ce qui sera le plus grand stade de football du monde au centre d'un Old Trafford régénéré, a commenté Jim Ratcliffe, le copropriétaire de Manchester United, dans un communiqué.
Alors dans l'actu sportive hors foot, il y a du tennis, qui est 8e de finale, ouais, il faut en parler, du Masters 1000 d'Indian Wells, et le russe Daniil Medvedev qui affronte le local, Tommy Paul.
Ouais. Medvedev, le finaliste de l'édition 2024, est désormais tête de série numéro 5, aura fort à faire face au 11e joueur mondial Tommy Paul. Attention pour le Russe qui a perdu leur dernier affrontement, c'était du côté de Rome sur terre battue la saison dernière. Et en cas de victoire, Daniil Medvedev pourrait affronter le vainqueur du duel entre l'Américain Giron et le Français Arthur Fils.
Ben voilà qui est complet. Merci beaucoup Sofiane Amazian. Et on va revenir sur la grande affiche, évidemment, on l'a détaillé, hein, de la soirée en football, le match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Les Parisiens battus 1-0 lors du match aller. C'est au tour des Anglais, hein, d'accueillir la rencontre. Et il y a un homme qui va être suivi de très près. Il est considéré par certains comme le meilleur joueur du monde. C'est l'Égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, qui a su construire une véritable histoire d'amour avec son club et ses supporters. Reportage de l'envoyé spécial de RFI à Liverpool, Cédric de Oliveira.
À la simple évocation de son nom, le visage de Phil s'est illuminé instantanément. Ce supporter quinquagénaire déborde d'admiration pour Mohamed Salah.
Absolument. Il y a des joueurs comme ça, c'est un privilège de les avoir, de les regarder. Il ne faut pas les perdre des yeux parce qu'ils sont capables, comme ça, sur un geste, de faire quelque chose de spécial avec le ballon.
Et il en a fait des choses spéciales, l'Égyptien, cette saison. 32 buts et 22 passes décisives alors que le mois de mars débute à peine. Bilan qui impressionne tout le monde et notamment son coéquipier Diogo Jota.
C'est exceptionnel. Je me demande si les gens n'ont pas arrêté de compter parce qu'il fait vraiment des choses incroyables. Il fait la différence. Évidemment, ça nous aide énormément. C'est bien d'avoir un joueur comme lui dans l'équipe.
Près de 8 ans après son arrivée, près de 400 matchs plus tard, Mo Salah est déjà entré dans l'histoire du club. Matt Addison est journaliste pour le site spécialisé Liverpool.com et selon lui, l'Égyptien a fait du chemin.
Quand il est arrivé, il était très individualiste. Il ne voulait que marquer des buts. Il a changé en tant que joueur. Je pense qu'il est moins égoïste. Il a aussi pris une dimension différente dans son propre pays, même sur le continent africain. C'est quelqu'un qui a plus de pression sur les épaules que la plupart des autres joueurs. Il a toujours eu à gérer ça.
À 32 ans, Salah semble désormais complètement épanoui à Liverpool, où il a trouvé un cadre idéal, comme l'explique Neil Atkinson, qui est présentateur du podcast The Anfield Wrap.
Salah a une identité complexe. Il y a sa foi, il y a sa nationalité, il y a son continent, mais il a construit beaucoup de choses et passé des moments en charnière de sa vie ici, comme la naissance de ses enfants. C'est un vrai Liverpoolien maintenant, et il a montré tant d'amour et de dévotion aux supporters. C'est un joueur de Liverpool parce qu'il aime désespérément le club.
Ça n'empêche pas la star de faire craindre le pire à ses supporters depuis plusieurs mois. En fin de contrat en juin prochain, Salah n'a toujours pas trouvé d'accord avec la direction des Reds pour prolonger. Interrogé par la télévision anglaise en janvier dernier, il a laissé planer le doute sur son avenir.
Et oui, il reste 6 mois. En tout cas, ce sont mes derniers mois. Il n'y a pas de progrès. On n'a pas avancé dans les négociations. On doit juste patienter et on verra.
Dans une ville où le visage de l'Égyptien a été reproduit sur plusieurs fresques, la question d'un départ terrifie les supporters des Reds. John ne veut pas y penser.
C'est le football. Parfois, tu perds ton joueur favori, mais ça nous briserait le cœur. Ça peut être très, très difficile. C'est un phénomène et il pourrait bien être le prochain Ballon d'Or.
Ce serait la consécration individuelle suprême pour Salah qui veut déjà terminer cette saison en fanfare, remporter la Première Ligue et pourquoi pas la Ligue des Champions. Cédric de Oliveira, Liverpool, RFI.
Les premiers éléments de réponse donc dans moins de 2 heures maintenant, hein, coup d'envoi de cette rencontre. Liverpool, PSG, 20h, temps universel à suivre en direct et en intégralité sur RFI. Pour l'heure, il est 18h24 TU. La France a donc lancé le chantier de sa future défense pour répondre à la nouvelle donne sans les États-Unis. Alors il y a eu l'allocution d'Emmanuel Macron mercredi dernier et ce mardi, les chefs d'état-major européens qui étaient réunis à Paris autour du président français. Bonsoir Paul Ackermann.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant dans la capitale française du journal suisse Le Temps et vous vous penchez sur ce défi désormais qui s'impose à la France, celui de doubler, comme l'a dit le chef de l'État français, le budget de la défense française d'ici 2030, alors que le pays est confronté à un déficit excessif. Vous écrivez dans votre chronique qu'il s'agit là d'un débat très français. Pourquoi cela ?
Alors, cette grande question des déficits qui a été omniprésente dans le débat français depuis en tout cas un an, c'est déjà une question très française par rapport à la Suisse ou l'Allemagne, par exemple, qui ont moins de problèmes de dette et de déficit, voire en Suisse parfois des excédents budgétaires. Mais moi, dans ma chronique, ce que je décris surtout, c'est un peu la liste des solutions qui sont envisagées, qui sont toutes très françaises et un peu exotiques pour un lectorat suisse, on va dire, et qui sont intéressantes, je trouve, à lister, quoi, plus que sur le fond du débat sur le déficit.
Par exemple ?
Il y a l'assurance vie, cette sorte de solution d'épargne typiquement française qui réunit 2000 milliards d'euros qui peuvent être investis comme ça dans un format d'épargne typiquement français. Et encore plus français, il y a ces livrets d'épargne réglementés comme le livret A, 443 milliards d'euros qu'on peut flécher un peu visiblement où on veut. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt sur le logement social. Mais il est envisagé par certains de le flécher vers la défense. Là aussi, on a un système assez, on va dire, vertical où l'État décide vers quoi il peut flécher l'épargne des Français. Pas très libéral et donc pas très proche de l'esprit suisse des gestions des finances. Après, il y a d'autres sujets qui sont abordés. Il y a eu la question des retraites qui est revenue sur la table. Donc, on le voit maintenant, ça fait plusieurs années que pratiquement tous les mois, on a un psychodrame sur les retraites. Donc là, maintenant, ce débat qui avait été rouvert et qui a été la condition de survie du gouvernement Bayrou, et ben des voix s'élèvent pour dire, dans le contexte du réarmement, et ben on doit le refermer, ce qui ne sera pas sans poser, voilà, d'ouvrir des débats typiquement français. Et puis après, ben, bien plus largement, et il y a ceux qui veulent taxer les plus riches, taxer les entreprises bénéficiaires. Donc on voit que c'est toujours les mêmes leviers qui sortent. Et puis, à l'opposé, le débat de pas toucher aux services publics, pas toucher aux acquis sociaux. Donc c'est bien les grandes questions françaises qui reviennent sur la table. On peut en lister quelques autres. Hein. Il y a le grand emprunt qui rappelle ce grand emprunt qu'avait tenté, mais pas réussi, Nicolas Sarkozy en 2009. Il y en a eu bien d'autres par le passé. Voilà, ces outils-là auxquels on n'est pas habitué en Suisse et qui sont intéressants à lister pour découvrir un peu cette créativité dépensière à la française.
Et parmi ces sujets, le plus emblématique en France est sûrement celui des retraites. Est-ce que vous estimez que cette nécessité d'augmenter sensiblement le budget de la défense en France va repousser ce débat sur les retraites ?
On entend vraiment cette petite musique qui monte. D'abord, il y a eu le patron du Conseil d'orientation des retraites qui l'a dit dans un blog spécialisé. Et puis, ça ouvre le débat. Et maintenant, on voit toutes les voix qui avaient visiblement, de toute façon, prévu de fermer le débat. On en avait déjà parlé dans ma chronique la semaine passée, qui là sent quand même très mauvais pour revenir sur ses 64 ans. Ce qui pose un autre problème, moi je ne me prononce pas du tout sur le fond, mais qui a un problème que le gouvernement Bayrou a survécu grâce à cette question, qui a été une condition des socialistes pour ne pas voter la censure. Et là, il y a un petit problème démocratique à fermer ce débat quelques semaines après seulement, quels que soient les arguments.
Le coût des armes et la créativité dépensière française, c'est le titre de votre chronique à retrouver cette semaine dans Le Temps, le quotidien suisse, et évidemment sur le site internet du Temps. Merci Paul Ackermann.
Merci à vous.
Et merci à vous de nous écouter. Dans un peu plus d'une minute, ce sera la première édition d'Afrique Soir. Et puis à 20h, ce sera le grand journal de Véronique Rigolet. Puis à partir de 20h10, Accent d'Europe. Et n'oubliez pas, à 20h40, notre grande soirée football sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693 70.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
L'école française, souvent présentée comme un sanctuaire, doit-elle davantage s'ouvrir sur la société?
Jeudi.
Que faire après le ski, ce loisir réservé à l'élite menacé par le réchauffement climatique?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.